Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
La Bible est source d'espérance et elle nous enseigne la sagesse. Mais que nous apprend-elle au sujet du mariage? Et quelles devraient être dans ce cadre-là les relations entre les hommes et les femmes?
Aujourd'hui, nous continuons notre série sur le mariage.
Au cours de ces discussions, nous faisons appel à deux invités. Arnaud se penche sur ce que dit la Bible à ce sujet et Antoine parle des leçons à en tirer pour aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Bonjour.
La dernière fois, nous avons lu quelques versets au début de la Bible montrant que le mariage est un don de Dieu destiné à contribuer à l'épanouissement des hommes et des femmes. Nous avons aussi appris de ces versets que le mariage est une union entre un homme et une femme, une union permanente et exclusive, c'est-à-dire qu'elle doit durer toute la vie et que les relations sexuelles doivent être réservées à ce cadre seul. Nous n'avons pas, je pense, épuisé toute la richesse des textes sur le mariage qui se trouvent dans les premiers chapitres de la Genèse. Par où voulez-vous commencer aujourd'hui, Arnaud?
Je voudrais revenir sur Genèse, chapitre 2, verset 18, où Dieu dit à Adam « Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis ».
Et quel est l'intérêt de ce verset?
Tout d'abord, nous devons comprendre qu'Adam avait besoin d'une aide. Il n'aurait jamais pu tout entreprendre seul dans la vie. Ceci est vrai pour tout homme et toute femme. Personne ne pourra jamais tout accomplir seul. Personne ne pourra jamais dire qu'il n'a besoin d'aucune aide, qu'il n'a pas besoin des autres. Ensuite, je remarque que le mariage a été créé par Dieu afin que chacun reçoive l'aide dont il a besoin de son conjoint et afin que chacun donne à son conjoint l'aide dont il ou elle a besoin.
Alors vous suggérez que cette aide doit être réciproque, c'est-à-dire que le mari doit aider sa femme, aussi bien que la femme doit aider son mari.
C'est juste.
Mais dans le verset que nous avons cité, Dieu dit qu'il a créé la femme pour aider l'homme. L'inverse n'apparaît pas. Qu'en dites-vous?
Pour moi, cela est sous-entendu. D'ailleurs, la Bible est très claire à ce sujet. En Éphésiens, chapitre 5, versets 25 et 28, « Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. » Il ne s'agit pas dans ces textes d'un amour sentimental, qui a sa place dans le mariage, mais d'un amour qui se donne à l'autre afin de l'aider et de contribuer à son épanouissement.
Antoine, avez-vous des remarques à faire à ce sujet?
Oui. Il est vrai que beaucoup ont mal compris cet enseignement, selon lequel la femme doit aider son mari, et ils en ont abusé. Malheureusement, beaucoup d'hommes traitent leurs femmes comme des servantes ou des esclaves. Ils attendent d'elles qu'elles fassent tout, sans rien leur donner en retour. Arnaud a raison de souligner que l'amour qui aide l'autre, qui s'occupe de l'autre, qui prend soin de l'autre, doit être vécu réciproquement. L'amour, selon la Bible, n'est pas égoïste. Il ne manipule pas sa femme ou son mari. Non, l'amour, selon la Bible, et je répète ce que Arnaud vient de dire, est un amour qui se donne afin de faire du bien à l'autre.
Antoine, pouvez-vous nous dire comment un mari doit aider sa femme et comment une femme doit aider son mari?
Voilà une question à laquelle il est difficile de donner une réponse précise. Tout d'abord, les situations, comme les traditions et les mœurs, de chaque pays sont différentes. C'est tout cela qui contribue à déterminer le rôle des hommes et des femmes au sein des couples. Toutefois, nous devons nous demander si ces habitudes reçues du monde correspondent à la vision ou à l'idéal biblique du mariage. Je crains que ces rôles fondés sur la tradition s'écartent souvent de ce que la Bible enseigne. C'est ainsi qu'il incombe aux chrétiens de réfléchir avec sa femme ou son mari sur la manière de mieux mettre en pratique la Bible dans sa vie de couple et dans le partage des tâches. L'essentiel est d'avoir une bonne conduite envers sa femme ou son mari. Il faut être disposé à le ou la soutenir, à veiller sur lui ou sur elle.
Merci Antoine. Alors, je pense que vous voulez nous parler d'un dernier texte sur le mariage qui apparaît dans les premiers chapitres de la Genèse.
Oui, il s'agit de Genèse, chapitre 1 et verset 28. Le Seigneur parle au premier couple afin de les bénir et il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. »
Mais quelle est l'importance de ce verset?
C'est un rappel que Dieu a créé les hommes et les femmes, entre autres pour qu'ils se multiplient, c'est-à-dire pour qu'ils aient des enfants. C'est pourquoi Dieu a instauré le mariage, afin que dans ce cadre seul soient conçus et élevés des enfants. Un enfant a besoin de son père et de sa mère, il a besoin de grandir dans une famille stable. La famille est une institution créée par Dieu, non seulement pour le bien-être des hommes et des femmes, mais aussi pour le bien-être des enfants.
Merci de nous rappeler cela. Mais aujourd'hui, dans un monde surpeuplé, et surtout dans les pays où beaucoup ont du mal à subvenir aux nécessités de la vie, est-il raisonnable de mettre tant d'enfants au monde? Antoine, qu'en pensez-vous?
Il est vrai qu'au temps des premiers hommes, il fallait peupler la terre et les ressources naturelles ne faisaient pas défaut. Aujourd'hui, la situation a bien changé et beaucoup peinent pour offrir à leurs enfants un niveau de vie convenable. Cependant, la race humaine doit continuer à procréer afin d'assurer sa continuation. Toutefois, je dirais qu'il peut être sage de limiter le nombre d'enfants que nous mettons au monde, car il est plus facile de s'occuper d'un petit nombre d'enfants et de pourvoir à leurs besoins.
Si nous choisissons de limiter le nombre d'enfants que nous mettons au monde, cela soulève le problème de la contraception. Qu'en pensez-vous?
Certains chrétiens pensent que l'usage des méthodes contraceptives est en contradiction avec cette exhortation de se multiplier et qu'il faut poursuivre les relations sexuelles sans protection en acceptant tout simplement les enfants que Dieu décidera de nous donner. Tout en respectant ces chrétiens, je ne partage pas leur avis. Dieu nous appelle aussi à la responsabilité et à la sagesse et de nos jours, je pense qu'il peut être sage et responsable de réduire le nombre des naissances. Par les moyens de contraception, Dieu nous donne la possibilité de limiter les naissances, tout en continuant à jouir des relations sexuelles au sein du couple. Ainsi, si vous pouvez bénéficier de méthodes contraceptives, je vous encourage à y réfléchir. Aujourd'hui, nous avons davantage la possibilité de décider du nombre d'enfants que nous voulons en fonction de ce que nous pouvons assumer.
Mais dans certains pays, on a besoin de beaucoup d'enfants, dans l'espoir que ces derniers s'occupent des parents dans leur vieillesse.
Ceci est vrai. C'est pourquoi je répète que c'est à chaque couple de trancher ces questions, de préférence ensemble, en fonction de leur propre situation. Et comme vous le dites, il y a de nombreux éléments qui entrent en jeu.
Merci. Ces questions sur l'aide que nous devons apporter à notre femme ou à notre mari, ou bien sûr le sujet des enfants, dont matière est réflexion. Jusqu'alors, nous avons considéré la vision idéale du mariage, mais nous savons également que cet idéal est difficile à atteindre au quotidien. La prochaine fois, nous commencerons donc à parler des problèmes qui peuvent nuire au mariage, engendrant tension et tristesse.
Nous remercions Arnaud et Antoine pour leur participation et reprendrons ces discussions la prochaine fois. Dans un instant, Jean-Marc va poursuivre ses méditations sur Christ et son amour pour l'Église. Mais d'abord, Hélène va lire dans Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 27.
Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par sa parole. Il a ainsi voulu faire paraître devant lui cette Église, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable.
Dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul compare l'idéal du mariage à la relation d'amour qui existe entre Christ et l'Église. Nous nous penchons dans ces méditations sur les questions « Comment Christ a-t-il aimé l'Église ? Comment aime-t-il l'Église ?» À l'heure actuelle, les problèmes causés par la pollution inquiètent beaucoup. Dans les zones industrielles, les usines peuvent répandre des gaz toxiques dans l'atmosphère ou bien se débarrasser d'autres produits nocifs qui contaminent les eaux et la terre. Les personnes vivant à proximité de ces usines en subissent les méfaits et risquent de tomber malades. Même à la campagne, personne n'est à l'abri de ce genre de problème. Par exemple, les sources d'eau et les puits peuvent être pollués et donner de l'eau non potable, exposant ceux qui la boivent au risque d'attraper diverses maladies. Jésus a dit que les hommes et les femmes aussi sont souillés ou impurs, non à cause de ce qui entre dans leur corps, mais par ce qui sort de leur cœur. En fait, c'est le péché qui nous rend impurs devant Dieu. Toute mauvaise action, parole ou pensée constitue un péché. Celui-ci comprend non seulement les crimes dramatiques comme le meurtre, le viol et le vol, mais aussi les attitudes suscitées par les sentiments comme la haine, la colère, la jalousie et la convoitise, le mensonge et la médisance, pour ne citer que quelques exemples. Et tout comme les eaux polluées peuvent empoisonner la vie et la santé d'un village, le péché est lui aussi porteur de conséquences néfastes, ne créant que conflits, malheurs et souffrances, il gâche la vie et conduit au châtiment de Dieu. Ceux qui habitent à proximité d'une usine sont bien contents que les propriétaires fassent le nécessaire, souvent à grands frais, pour réduire la pollution qu'ils créent. Ils remarquent rapidement la différence. L'air pur est agréable à respirer. Grands et petits bénéficient aussi d'une meilleure santé, d'une meilleure forme. Et ceux qui ont eu l'habitude de boire à des sources d'eau sale sont heureux lorsque quelque bienfaiteur vient creuser un puits profond donnant accès à des eaux fraîches et pures. Du coup, certaines maladies peuvent pratiquement disparaître du village. De même, nous devons être contents d'apprendre que Christ a tellement aimé les hommes qu'il a bien voulu nous purifier de nos péchés. Nous ne pourrions jamais nous purifier par nos propres efforts. Nous avons besoin d'un bienfaiteur, et en Christ, nous le trouvons, car il est compatissant et miséricordieux. En fait, cette purification du péché est le plus beau cadeau que Christ ait pu offrir à l'Église, car Dieu n'accepte pas en sa présence celui qui est impur. Cependant, puisque Christ a purifié son Église, nous avons libre accès auprès du Dieu Tout-Puissant, et nous avons ce privilège de le connaître et de marcher avec lui dans la communion, la joie et l'espérance.
Jésus a prouvé son amour envers les hommes en ce qu'il a donné sa vie sur la croix, afin que nous soyons purifiés de nos péchés et que nous puissions vivre éternellement avec Dieu.
Ayons l'amour de Christ, pour exemple. Nous devons à notre tour veiller sur notre conjoint, l'aider à s'épanouir et à croître dans la connaissance de Jésus.
Pour en apprendre davantage sur le mariage d'un point de vue biblique et sur l'amour de Dieu pour les siens, nous vous invitons à écouter notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. En attendant, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous garde dans son amour.